Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, Denis Soy qui mal y pense.
Bonsoir, merci d'être là. La dernière séance, qui était aussi la première, avait été l'occasion de tout vous dire, ou presque. Donc il s'agira, dans les séances qui nous restent, de développer tous les points qui auront pu être abordés. Il y aura 5 grands moments dans cette année. Un premier temps qui concernera la question de la biographie, du déni de la biographie, du déni de la philosophie également. Vous verrez que les relations entre biographie, autobiographie, philosophie sont des relations complexes, singulières, extrêmement intéressantes, qui permettent de comprendre beaucoup en ce qui concerne Freud, et d'autres bien sûr, mais Freud surtout. Il y aura un deuxième moment qui tâchera de montrer que, contrairement à ce que Freud avance, énonce et pense, les concepts de Freud procèdent de sa biographie, de son autobiographie, et nous verrons que cette ardeur qu'il a à se dire scientifique, expérimental, clinique, clinicien, etc., eh bien, cette ardeur n'a d'égal que son refus de constater que sa vie influence son œuvre, sa pensée, et que dans des moments tout à fait particuliers, par exemple, ses fils sont à la guerre, Première Guerre mondiale, il perd une fille, et comme par hasard, on voit apparaître le concept de pulsion de mort. Freud ne veut pas qu'on mette en relation ces concepts avec sa biographie, et pour cause, on verra, il y a une espèce de déni de l'histoire chez lui. Le premier temps, je l'ai intitulé « Denis Soy qui mal y pense », le deuxième, « Le crâne de Freud enfant ». Le troisième concernera les théories, je dirais, le capharnaüm. Il y a une espèce de capharnaüm chez Freud, parce qu'effectivement, on nous dit, il y a une pensée linéaire, c'est une espèce de génie qui découvre tout seul la psychanalyse, et donc on a l'impression que le temps, ça n'est jamais chez lui que le développement d'un fil très, très clair, un genre de fil d'Ariane qui nous permettrait de sortir du labyrinthe dans lequel les philosophes sont perdus depuis si longtemps. On verra que de fait c'est faux, c'est pas comme ça que les choses se passent du tout, qu'il y a des errances, qu'il cherche, qu'il tâtonne, qu'il revient sur des positions, qu'il oublie un certain nombre d'erreurs, qu'il organise l'oubli de ces erreurs-là. Un quatrième temps concernera la thaumaturgie, c'est-à-dire l'art de guérir. Je l'ai appelé, vous me direz, c'est un petit peu facile, les ressorts du divan. Ça nous permettra de savoir ce qu'est la psychothérapie depuis très longtemps, depuis l'époque préhistorique, puisque je pense que Freud est un chaman des temps postmodernes. Donc ce sera l'occasion de voir comment ces choses-là s'articulent. Et puis dans un dernier temps, ce que j'ai appelé l'idéologie, c'est-à-dire la politique de Freud, c'est-à-dire aussi bien le rapport de Freud à la politique. Et vous verrez, on découvrira des choses très 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 étonnantes. Une espèce de dilection toute particulière pour un certain Benito Mussolini, par exemple, chose rarement dite. Et puis ce qu'aura généré sur le terrain politique, la psychanalyse, un usage de la politique sur le continent européen, le vieux continent européen, et puis également sur le continent américain. On démarre donc cette aventure avec le déni de la biographie, qui est assez singulier chez Freud, qui ne voulait pas, et ce très vite et très tôt, qu'on se soucie de sa biographie, qu'on s'intéresse à lui. Alors prétendument pour des raisons de modestie, du genre la science est intéressante et elle seule, moi pas, je ne suis rien, etc. En fait, pour dissimuler la totalité des traces, tout ce qui montrerait l'inscription de la psychanalyse dans l'histoire. C'est ça que je vais essayer de vous montrer aussi cette année. La psychanalyse s'inscrit dans l'histoire. Vous allez me dire, vérité de la palisse. Sauf que, pour l'instant, dans toutes les encyclopédies, les dictionnaires ou tous les ouvrages dominants et majoritaires, l'historiographie dominante nous dit que il n'y a pas de problème. C'est un corpus qui s'est constitué de manière idéale, qu'il n'a rien à voir avec la matière du monde, avec la réalité du monde, avec l'histoire, et puis que, d'une certaine manière, c'est le commerce d'un génie, Sigmund Freud, avec le monde des idées qui a produit la psychanalyse, et que c'est assez trivial d'aller chercher des raisons du côté du sensible, du matériel ou de l'histoire. Moi, je persiste à croire que l'histoire nous renseigne véritablement, surtout et surtout, c'est qu'il faut de l'histoire et que le déni de l'histoire fait le lit des pires drames, des pires tragédies. À l'évidence, refuser qu'on puisse expliquer ses concepts par sa vie, sa pensée, par sa propre existence, suppose une position radicalement anti-nietzschéenne. Parce que d'une certaine manière, c'est la vérité du nietzschéisme que d'avoir dit Et je le dis souvent, hein, je renvoie à la préface au Gai Savoir, je renvoie aux premières pages de Par-delà le bien et le mal. Nietzsche nous le dit très précisément, une pensée c'est une confession, c'est l'autobiographie d'un corps. Nietzsche nous dit effectivement que la clé d'une œuvre se trouve dans la biographie. Alors ça ne veut pas dire quand on aura démonté la relation entre biographie et œuvre que pour autant on aura détruit l'œuvre et qu'elle ne sera plus rien, pas du tout. On l'aura simplement expliqué et on l'aura relativisé. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire il s'agit de ne pas porter au pinacle des pensées qui sont certes extrêmement intéressantes, mais comme la pensée de Spinoza est intéressante ou la pensée de Sénèque est intéressante. C'est un préjugé idéaliste dans lequel se trouve Freud, et c'est un préjugé dans lequel l'histoire de la philosophie se trouve bien souvent. Moi, quand j'ai commencé mes études, je ne me sens pas très barbon encore, mais enfin, quand j'ai commencé mes études, il n'était pas du tout question de penser en termes de biographie d'un philosophe. Et dans les librairies, il n'y avait d'ailleurs pas de biographie des philosophes. Ça n'intéressait pas les historiens, ça n'intéressait pas les philosophes non plus. C'est par la suite qu'on a commencé à s'intéresser à la vie des philosophes, et quand on met en perspective la vie et l'œuvre, alors on découvre autre chose, on voit autre chose, on voit autrement. C'est la proposition que je vais vous faire cette année. Il écrit à Martha Bernays, c'est sa fiancée, celle qui deviendra sa femme, on ne peut devenir biographe sans se compromettre avec le mensonge, la dissimulation, l'hypocrisie, la flatterie, sans compter l'obligation de masquer sa propre incompréhension. La vérité biographique est inaccessible. Si on y avait accès, on ne pourrait pas en faire état. C'est une phrase étonnante. Alors d'abord, vous verrez, pendant cette année, je vais beaucoup citer les correspondances, parce que je crois que les correspondances procèdent de l'œuvre, sont une œuvre, font partie de l'œuvre, et qu'il n'y a pas d'un côté le génie d'un texte, et puis de l'autre côté une correspondance dans laquelle rien ne se trouverait. Je pense qu'on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les correspondances de Freud, et si on y avait trouvé peu de choses, je vois pas pourquoi sa famille se serait occupée de les récupérer, de les détruire, de les installer dans des archives où on ne peut, pour certaines, toujours pas les consulter. Cette lettre, par exemple, nous dit effectivement qu'une vie ne serait que mensonge, dissimulation, hypocrisie et flatterie. C'est une drôle façon de considérer que, finalement, il n'y aurait que de la négativité chez un être, d'une part. Ensuite, considérer, alors qu'on est Freud et qu'on prétend qu'on va mettre à jour les fonctionnements d'un individu, qu'on ne peut pas découvrir le fonctionnement d'un individu. Freud nous dit d'une certaine manière, dans son œuvre complète, qu'on peut rendre compte des ressorts les plus intimes d'un être, mais en même temps, il nous dit là que dans la biographie, ça n'est pas possible ou ça n'est pas pensable. Et puis cette dernière phrase étonnante, si on y avait accès, on ne pourrait pas en faire état. On ne voit pas pourquoi on ne devrait pas faire état de ce que nous pourrions découvrir dans la biographie d'un individu. Cette façon de refuser la biographie et le biographe est une façon singulière. À l'évidence, ça fonctionne, ce refus de la biographie, avec le désir de construire une légende. Si vous construisez une légende, l'histoire ne peut pas confirmer la légende que vous êtes en train de construire. Donc il faut choisir. Refus de la biographie, refus du biographe, refus de l'histoire, c'est souvent célébration de la légende. Quand vous n'avez rien à craindre, quand vous n'avez rien à cacher, la biographie n'est pas problématique, si tant est que vous ayez affaire à des biographes dignes de ce nom, c'est-à-dire des gens qui ont envie de comprendre, qui ont envie de saisir les mécanismes de production d'une œuvre particulière. Il s'agit donc d'accréditer la thèse de l'épiphanie légendaire. Ça provient comme ça du ciel, ça tombe du ciel, Freud est génial, il fait son auto-analyse, il rentre à l'intérieur de lui-même, il propose un genre d'introspection, on verra qu'elle ne dure pas bien longtemps et qu'elle n'est pas bien immense, cette introspection. Mais la légende nous dit que ça a été courageux, ça a été un travail considérable et qu'il est allé dans des contrées absolument inédites, qu'il y a quasiment risqué sa peau dans cette auto-analyse et que dans l'auto-analyse, il aura découvert la vérité de la psychanalyse. Donc, la production de la psychanalyse est l'affaire d'un homme qui se replie sur lui-même au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'il fait une réflexion, qui fléchit et qui réfléchit sur lui-même et qui va découvrir tout seul ce qu'il nous proposera. On verra que ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. En 1885, il a 29 ans, il détruit 14 années de traces. Il brûle tout, c'est-à-dire il brûle des journaux, des correspondances, des notes, des réflexions, des commentaires scientifiques, tout le travail qu'il a pu faire pendant tout ce temps-là, eh bien, il en fait un immense feu de joie. Il est très heureux avec ça, et il écrit toujours dans une lettre à sa fiancée qu'il imagine la tête que feront ses biographes. C'est-à-dire que Freud, quand il a 29 ans, pense déjà à ses futurs biographes. Non pas à son biographe, mais à ses biographes. Il utilise un pluriel. Il considère qu'il aura des biographes. Il n'a encore rien fait. Naissance le 6 mai 1856 à Freiberg. Le père est négociant en laine, Jacob. La mère Amalia est au foyer. Les deux parents sont juifs. Il est circoncis. Enfance banale. Études au lycée. Hésitation sur ses études. On lui avait dit qu'il serait ministre. Il a envie de faire du, qu'il serait un grand homme et qu'il serait probablement ministre. Il a envie de faire du droit. Il pense que ça pourrait l'y conduire. Puis finalement, il n'est pas très sûr. Il fait médecine sans grande conviction. Il s'inscrit à l'université, mais ça traîne. Pendant que ses amis font leurs études assez rapidement, lui prend du temps. Il va ici ou là, il assiste à quelques cours de philosophie d'ailleurs, puisqu'il avait envie de faire de la philosophie. Mais finalement, c'est pas facile d'être célèbre et de faire de l'argent avec la philosophie. Je vous le dis, moi. Et donc, évidemment, c'est plus facile de faire de l'argent, d'être célèbre et d'avoir un nom et de se faire une réputation avec la médecine et éventuellement avec la médecine de l'âme. Donc, fait ses études de médecine. Ça traîne un petit peu. Il trouve que ça ne va pas assez vite. Il travaille en laboratoire sur la sexualité des anguilles. C'est pas excitant, plus que ça. Alors, il prétend qu'il a découvert deux ou trois petites choses. Il dissèque beaucoup et puis cherche des gonades. Il en trouve quelques-unes. Mais de fait, on n'a pas le prix Nobel avec ça. Il fait son service militaire. Il traduit quelques textes de Stuart Mill, le philosophe anglais dont j'ai dit beaucoup de bien déjà, notamment un très bel essai sur les femmes. Il en profite pour dire à sa femme que le féminisme, c'est une sottise, que Stuart Mill dit des sottises, parce que c'est un macho de première classe, Freud. Et puis on verra qu'en plus du machisme, il ajoute la misogynie, et qu'à la misogynie, il ajoute aussi une phallocratie, c'est-à-dire une construction de son système sur le phallus, symbole sexuel masculin, et que, on terminera l'année là-dessus, mais qu'une femme, ça n'est jamais qu'un homme qui n'a pas évolué. Ce sera la définition. Je ne suis pas sûr de souscrire à cette hypothèse. Mais je vous précise que c'est la sienne, du moins. Ben non, je ne souscris pas, je plaisante. Il rencontre sa fiancée, grand moment dans son existence. Il a décidé que ce serait elle, il a décidé qu'il allait l'épouser, etc. Il se sépare un peu parce qu'il va faire quelques allers-retours chez Charcot, et il écrira à peu près 1000 lettres, dit-on. Et puis aussi, il a travaillé sur la cocaïne, et il en a pris beaucoup. Et alors évidemment, il faisait un travail, donc il fallait bien expérimenter. Sauf que les choses ne sont pas dites aussi clairement. Moi, je vous le dis très précisément, quand on fait les analyses, il a été 12 ans cocaïnomane, Freud. Ça aide pour quitter la chaussée, parfois, théoriquement. Et donc, il y a un certain nombre de thèses. Vous verrez, l'esquisse de psychologie scientifique, par exemple, donne l'impression d'avoir été écrite avec de la poudre dans le nez. Et beaucoup de poudre. Et donc, il y a eu un moment où il s'est dit qu'il allait probablement faire fortune avec cette aventure de cocaïne. Il avait lu quelques articles, je ne vais pas tout vous dire tout de suite, mais il avait lu quelques articles, il s'était dit, c'est pas mal ça, probablement on peut devenir riche et célèbre assez rapidement. Il a fait quelques essais sur un copain qu'il a envoyé dans la tombe, et évidemment il avait écrit des textes, il a détruit ces textes-là, il les a fait disparaître parce qu'il avait dit que ça sauvait, que ça guérissait de tout. Il a découvert que ça guérissait pas autant que ça, il pensait que ça guérissait de la morphinomanie, en fait de son copain morphinomane il a fait un cocaïnomane aussi. Enfin, il avait vraiment beaucoup d'intérêt à faire disparaître tous ses premiers travaux sur la cocaïne. Et on peut imaginer que dans cet auto-da-fé de 1885, il ait détruit beaucoup des preuves de ses errances sur la question de la cocaïne. Mais évidemment, quand vous publiez un texte un jour, quand vous publiez un article un jour, il y a toujours des articles qui circulent, des volumes de la revue qui circulent, et vous pouvez toujours les retrouver. Donc on retrouve aujourd'hui, évidemment, ces articles que Freud a consacrés à la cocaïne, et on a découvert aussi dans un certain nombre de lettres, notamment les lettres à Fliss, et je vais vous dire tout à l'heure tout le bien que je pense des lettres à Fliss, sans lesquelles le cours de cette année n'aurait pas eu lieu, ça c'est clair, et on verra dans les lettres à Fliss ce qu'il en est de toutes ces errances et de toutes ces histoires. Ces fameuses lettres à Fliss, là aussi je vous dirai comment Freud a voulu les récupérer pour pouvoir les détruire, comment Marie Bonaparte, qui était une grande psychanalyste, elle aussi, attachée, les a récupérés en disant « mais non, c'est important, c'est quand même la genèse, la généalogie de la psychanalyse ». La fille de Freud, Anna, disait « mais il y a des choses trop intimes, trop personnelles », donc il y a eu des éditions expurgées, et c'est il y a peu seulement qu'on a pu lire la totalité des lettres que Freud a envoyées à Fliss. Évidemment, les lettres que Fliss a envoyées à Freud ont été détruites par Freud lui-même. On y découvre, dans cette aventure, que la légende d'une espèce de trajet rectiligne, d'un Freud qui serait parti d'une espèce de connaissance intime de ce qu'il avait à faire et qui serait parvenu à la découverte de la psychanalyse tout seul, et qu'il aurait fabriqué tout ça à partir de son génie. Effectivement, tout ça, c'est une légende, parce qu'il n'y a pas un trajet rectiligne, mais des errances, et beaucoup d'errances, et beaucoup d'erreurs. Et quand on fait de l'histoire, pour le coup, et pas de la géographie ou de la légende, on découvrira l'étendue des dégâts. Il y a des gens qui ont été maltraités, je veux dire traités, mais maltraités, mal soignés, détruits, des erreurs chirurgicales, des erreurs de thérapie, des erreurs de diagnostic, des gens qui ont été défigurés physiquement. Enfin, je vous donnerai le détail avec l'histoire d'Emma Eckstein, par exemple, qui est une jeune femme dont Freud a toujours dit qu'elle était hystérique et qui n'a jamais voulu prendre en considération, l'erreur chirurgicale qui a consisté avec son ami Fliss de laisser 50 cm de gaz dans son nez après une opération. 50 cm de gaz qui, évidemment, se sont infectés après pourrissement et qui ont produit un certain nombre de dégâts. Il a fallu réopérer cette femme qui s'est retrouvée défigurée. Mais évidemment, toute l'aventure Eckstein est détruite. Et dans les 1500 pages de la géographie d'Ernst Jones, qui est le premier biographe autorisé, comme on dit aujourd'hui, eh bien, vous chercherez en vain le nom d'Emma Eckstein, bien sûr, et vous aurez une version extrêmement légendaire de la question de la cocaïne. On y découvre que donc il n'est pas forcément le bon thérapeute qu'on a voulu dire. On y découvre d'autres choses. Je vous ferai voir que pendant qu'il prétend être psychanalyste, il continue à pratiquer un certain nombre de médecines de charlatans, un psychrophore par exemple, qui est une espèce d'instrument, me semble-t-il, de torture qu'on fait rentrer dans l'urètre du pénis des hommes pour les guérir. Et on fait des envois d'eau froide pour les guérir de la masturbation. Il faut dire que le Freud qui nous dit qu'il guérit de tout avec le divan, il prescrit encore l'usage de cet instrument barbare autour des années 1910 tout de même. Donc évidemment, on n'a pas forcément envie que des correspondances témoignent de ce genre d'errance. On y découvre que Freud n'est pas le héros qu'on veut bien dire. Jones dit qu'il a souffert d'une psychonévrose fort grave. C'est quand même une formule intéressante, une psychonévrose fort grave, surtout de la part de quelqu'un qui fait la géographie de son héros et de son sujet. Mais c'est pour mieux dire que cette psychonévrose fort grave, elle disparaît à partir du moment où Freud travaille son auto-analyse. Il fait son auto-analyse, il est guéri, il invente la psychanalyse et il est le premier guéri par la psychanalyse. On verra qu'il est le premier des pas guéris par la psychanalyse et qu'un certain nombre d'autres individus ne seront jamais guéris par Freud, bien que Freud dira qu'il les aura guéris. On entrera dans le détail du petit Hans, de l'homme au loup, de l'homme au rat ou d'autres cas qui constituent, par exemple, la plupart des cinq psychanalyses. On y découvre un personnage qui somatise. Il nous tient au détail, il nous donne le détail de ses furoncles, par exemple, dans des zones sensibles, de ses maladies, de la dépression qui est la sienne, de ses moments d'impuissance sexuelle qui sont importants, de ses problèmes intestinaux, de ses angoisses, de ses phobies, etc. La correspondance à Fliss n'arrête pas. La correspondance à Fliss, c'est 1887-1904. C'est donc une longue durée. Et on y voit effectivement la généalogie d'une pensée, la généalogie d'un penseur, et je vous assure que c'est extrêmement intéressant. On y découvre que Freud n'est pas non plus un pur esprit, mais un individu dans ce qu'il y a de moins intéressant parfois, qui est très très intéressé par l'argent, très très intéressé également par la célébrité. Très rapidement, très tôt, il rêve de bustes de lui à l'université. Il a envie de plaques sur sa maison qui honorent son génie de découvreur de l'inconscient. Il a envie assez rapidement d'obtenir le prix Nobel. Et ça, c'est récurrent chez lui. Il a envie d'être riche et célèbre et connu sur la planète entière. Sa maman lui avait dit donc qu'il serait célèbre et il veut faire plaisir à sa maman. On comprend pourquoi les correspondances ont été tenues au secret et pourquoi certaines correspondances encore aujourd'hui sont tenues au secret dans des archives aux États-Unis où vous n'avez pas droit d'accéder, sauf si vous êtes habilité, c'est-à-dire si on sait que vous n'allez pas faire un mauvais usage des correspondances ou des archives que vous pourrez lire. Il y a eu des enregistrements, des bandes, sons, il y a de la correspondance papier, il y a des échanges de correspondances, il y a mille choses qui nous permettraient de faire de l'histoire. Tout simplement faire de l'histoire. Donc évidemment, quand vous écartez l'histoire, vous pouvez fabriquer la légende. La construction de la légende, elle est assez facile quand vous recourez vous-même à votre propre autobiographie. C'est souvent le cas. L'autobiographie, c'est le début de la construction de la légende. C'est vous qui racontez sur vous. Vous êtes juge et partie. À l'évidence, vous pouvez être, vous pouvez effectivement le faire délibérément, c'est-à-dire dissimuler, cacher, etc. Mais vous pouvez aussi, les voies de l'inconscient étant impénétrables, et puis l'inconscient n'est pas que freudien, on reviendra sur ce sujet-là, vous pouvez aussi, de bonne foi, avoir oublié, avoir négligé, donner de l'importance à quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, passer sous silence quelque chose qui est majeur ou fondamental. Donc, le personnage qui écrit son autobiographie est souvent dans une hagiographie de lui-même. Et Freud produit deux ouvrages majeurs, Autoprésentation. Alors, j'ai travaillé sur l'œuvre complète des éditions des presses universitaires de France, donc il y a des changements de traduction. Cette autoprésentation, elle a été connue longtemps, cette autobiographie, sous le titre « Ma vie et la psychanalyse ». Donc, autoprésentation, c'est « Ma vie et la psychanalyse ». Et puis, un autre texte extrêmement intéressant, « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique ». Un autre texte qui, pour le coup, est une autobiographie intellectuelle, est une autobiographie de la discipline. Et Freud dira qu'il a inventé la psychanalyse, etc. Enfin, tâcherai de vous faire la démonstration que Freud n'a pas inventé la psychanalyse, que c'était Joseph Breuer qui l'a inventé. Freud dit lui-même, jusqu'en 1910, que c'est Breuer qui a inventé la psychanalyse. Puis après, comme il a envie de faire une espèce de coup d'État sur ce mot qu'il n'a même pas créé, puisque lui, il n'a pas parlé de psychanalyse, mais il parlait de psychoanalyse. Et c'était des gens comme Forel, dont personne ne connaît le nom, qui, eux, parlaient de psychanalyse. Un jour, Freud va laisser tomber sa psychoanalyse, va parler de psychanalyse, puis va finir par dire, notamment dans la fameuse contribution, que la psychanalyse, c'est lui et personne d'autre. Et que si, à une époque, il a pu dire qu'effectivement, Breuer en était l'inventeur, il a voulu dire qu'il était l'inventeur potentiel d'une idée qu'il n'a pas su mener à bien, mais que lui, Freud, a mené à bien le travail qu'il fallait faire, et que l'inventeur, c'est lui et c'est personne d'autre. La biographie dont je vous ai parlé, Ernest Jones, qui s'appelle « La vie et l'œuvre de Sigmund Freud », 1500 pages, fournit la matrice aux autres biographies. C'est un vrai travail, la biographie. Il faut aller dans les archives, il faut dépouiller des lettres, il faut lire des tonnes de correspondances, il faut faire des choses pas forcément réjouissantes. Enfin, il faut faire un vrai travail de bénédictin. Et c'est plus souvent facile de faire une biographie à partir de la biographie des autres. Il s'agit de magnifier un héros. Eh bien, tout ce qui n'est pas héroïque, vous allez le mettre de côté. Tout ce qui pourrait ne pas être héroïque, une dédicace à Mussolini, eh bien, vous allez donner une explication en disant qu'il y avait de l'ironie, qu'il faut pas prendre ça au pied de la lettre, que c'est pas ce qu'il faudrait comprendre. La question de la cocaïne, bah, évidemment, comme on sait que Freud a détruit des documents, mais que tout n'a pas été détruit, eh bien, vous redonnez une version, c'est-à-dire vous proposez une version légendaire, et la plupart du temps, la version légendaire, elle est répétée. Parce qu'il vous faudrait prendre cette version et vérifier. Faire le travail de vérification en vous disant, prenons cette question, par exemple, de la cocaïne et allons voir, lisons ces textes. La plupart du temps, les gens n'ont pas forcément envie de faire ce genre de choses parce que 1500 pages, ça fait la loi. Et Jones fait toujours la loi. Et puis ensuite, mais ça aussi on développera, il vous faut organiser votre existence sur le principe des cercles concentriques. Et vous avez donc votre garde rapprochée, vous avez vos disciples, qui sont souvent des hommes de main, des gens sans foi ni loi, qui vous pouvez faire faire ce que vous voulez, qui sont là de toute façon, ils sont là pour mourir pour vous. Et puis, au fur et à mesure, vous créez des institutions, des instances, des revues, des congrès, des maisons d'édition et autre chose qui vous permettent d'exister. Bourdieu aurait dit d'occuper le champ, parce que si vous ne l'occupez pas, d'autres l'occuperont à votre place. Et Freud a été excellent pour cette question de l'occupation du champ sociologique dans lequel se trouvait la question des maladies psychosomatiques, de la psychiatrie, de la psychologie, dans la Vienne de cette époque-là, mais aussi dans l'Europe d'alors. Donc il ne s'agira pas pour moi de faire une hagiographie, ça vous l'aurez compris, mais il ne s'agira pas non plus de détruire systématiquement ou pour le plaisir de détruire. Je serais plutôt dans la perspective d'un Spinoza qui nous disait « ni rire ni pleurer, mais comprendre ». C'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est que cette psychanalyse, qui est une psychologie littéraire, je ne le dis pas avec mépris, mais en le constatant, en disant « c'est une psychologie littéraire qui s'est prétendue une théorie scientifique, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait pu marcher comme ça, comment est-ce que Freud a pu procéder ?» C'est ce que je vais essayer de faire avec vous pendant toute cette année. Ça supposera donc une psychobiographie, et on pourra me reprocher d'utiliser nombre de concepts freudiens, mais je tiens à vous dire que j'utiliserai des concepts freudiens parce qu'il n'y a pas plus adapté, de plus adéquat, pour utiliser un terme spinoziste, pour dire Freud. C'est-à-dire les concepts de la psychanalyse sont des concepts qui permettent de dire Freud. La psychanalyse est un instrument pour comprendre Freud, pas forcément le reste du monde. Cette psychobiographie nous y invitait, D'ailleurs, il nous disait qu'il faudrait produire la psychobiographie des philosophes. Eh bien, je vais essayer de produire une psychobiographie de Freud avec pour thèse, ce sera la thèse de l'année, que la psychanalyse, c'est le rêve le plus élaboré de Freud. Mais ça supposera, à l'évidence, le détour par l'autobiographie. Il nous faudra donc montrer l'articulation entre biographie et concept, ce qui nous permettra de penser en termes d'affabulation, d'apostrophe affabulation. La fabulation est un mot ancien avec une acception récente, et je vous donne celle de Pierre Gilbert qui a écrit un dictionnaire des mots contemporains. Alors la fabulation, c'est une manière fantaisiste ou même mensongère de présenter, de rapporter des faits. Il y a du mensonge, à l'évidence, quand on dit qu'on a guéri des gens qu'on n'a pas guéris, quand on a tué des gens dont on nous dit qu'ils se sont tués eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait prescrit alors qu'ils ont scrupuleusement fait ce qu'on leur avait prescrit. Il y a du mensonge, à l'évidence. Mais de la fantaisie, beaucoup. Vous verrez les fantaisies nommées la Horde du Père, le complexe d'Édipe, le festin cannibale après la mendication du corps du Père, enfin toutes ces choses que nous aurions vécues, l'idée que nous aurions assisté depuis les plus hautes les époques de la préhistoire à la copulation de nos propres parents et que ça nous traumatiserait, etc. Enfin, toutes ces choses-là, vous verrez que c'est le fond de la pensée de Freud, et il nous faudra voir comment tout ça relève effectivement de la fantaisie. À l'évidence, lui qui passe son temps à dire qu'il est un philosophe, qu'il est, pardon, un scientifique, et qu'il n'aime pas les philosophes, il est un philosophe. Donc, il n'est pas question pour moi de le mépriser. C'est pas, et vous le savez bien, pour moi, une épithète infamante que de dire de quelqu'un qu'il est philosophe. Simplement, c'est pas du tout la même chose que de nous dire qu'on est un descendant ou un compagnon de Copernic et de Darwin, ou que de dire qu'on a là quelque chose, la psychanalyse, par exemple, qui est assimilable à la psychologie littéraire d'un Marcel Proust dans La Recherche du Temps Perdu. C'est pas déshonorant que de le dire. Simplement, Marcel Proust n'a jamais penser qu'il pourrait guérir le monde entier à partir de ses propres fantasmes. Donc on verra comment ce désir de Freud devient une réalité qui fonctionne dans la mesure où elle renvoie à la pensée magique. Il y a donc un déni de la biographie, et vous voyez bien pourquoi. Il y a donc aussi un déni de la philosophie. Il ne veut pas qu'on fasse savoir qu'il pourrait être un philosophe, qu'il aurait pu aimer la philosophie, qu'il aurait pu vouloir lui-même être un philosophe ou supposer ce genre de choses. Or, une lettre à Fliss nous le dit, 1er janvier 1896, je cite, « Mon but initial, la philosophie, car c'est cela que je voulais à l'origine. » Donc on a l'aveu de quelqu'un qui nous fait savoir que ce qu'il souhaitait, c'était être philosophe. Il n'avait pas forcément envie de devenir médecin, il nous le dira un peu plus tard dans son œuvre, il n'avait pas forcément envie non plus de devenir médecin psychiatre. Et s'il est dans le tâtonnement à l'université et qu'il assiste aux cours de Brentano, je vous le dirai tout à l'heure, c'est bien parce que la philosophie l'intéresse. Mais, je vous le redis, la philosophie ne permet pas d'être riche, célèbre, connu sur la planète entière. C'est bien plus difficile d'être le Kant de son siècle que de devenir l'inventeur d'une, entre guillemets, d'une thérapie qui est censée soigner et guérir. La légende voudrait donc qu'il ait considéré que son destin était dans la médecine, en assistant à une conférence au cours de laquelle avait été lu le texte de Goethe qui s'appelle « La nature ». En fait, si vous faites de l'histoire, vous découvrez que c'était une conférence qui avait pour sujet l'anatomie comparée, et pas du tout la pensée de Goethe à proprement parler, mais l'idée que Goethe ait pu servir de déclencheur à cette carrière qui deviendra la carrière de Freud est une idée intéressante, idée légendaire bien sûr, mais idée extrêmement intéressante. Je n'ai pas les moyens, moi, de vérifier, je ne travaille pas sur des logiciels, mais d'aucuns font savoir que Goethe est probablement l'auteur le plus cité de l'œuvre complète de Freud. En 1914, il avoue qu'il a lu Schopenhauer, mais ça, c'est un aveu qui étonne assez peu. C'est-à-dire qu'il y a une grande mode schopenhauerienne à cette époque-là, il y a une grande mode nietzschéenne également à cette époque-là, et on ne peut pas ne pas connaître ces deux-là. Et si vous lisez Le Monde comme volonté et comme représentation, vous avez un nombre considérable de thèses qui sont des thèses qu'on retrouvera chez Freud. Et la théorie du refoulement, qui est très précisément la théorie freudienne, eh bien cette théorie du refoulement, elle se trouve dans le monde, comme volonté et comme représentation. Oui, mais ça n'a pas produit d'effet, nous dira Freud. Il y a un refus qui est assez symptomatique. On va consacrer le restant de cette séance à en examiner un petit peu le détail. C'est le refus de Nietzsche. Je vous ai dit l'an dernier que, d'une certaine manière, le freudisme était un nietzschéisme, et à l'évidence, c'est un nietzschéisme qui se refuse d'être un nietzschéisme. Parce que nombre de thèses de Nietzsche sont des thèses qu'on retrouvera chez Freud. Freud changera simplement les étiquettes et va modifier un certain nombre de concepts nietzschéens pour leur donner un nom qui sera le concept freudien sous lequel concept triompheront les idées de Nietzsche. Mais il y a un trajet assez semblable. Nietzsche, ce sont deux contemporains. Nietzsche a 12 ans de plus. Et quand paraît la naissance de la tragédie, par exemple, 1872, 2 janvier, je crois, 72, Freud rentre au lycée. Quand il écrit sa première intempestive, Nietzsche, il entre en médecine, Freud. Quand il écrit son intempestive sur Wagner, c'est le moment où il s'occupe de la sexualité des anguilles, notre docteur. Parution du Gai Savoir, Breuer, l'inventeur de la psychanalyse. Et Freud le dira, je me répète, mais Freud travaille avec Joseph Breuer. Il a tellement d'admiration pour cet homme que d'ailleurs il prénommera sa première fille Mathilde, prénom de la femme de Joseph Breuer. Ils sont en train de travailler sur le cas de Anna O, Bertha Pappenheim. Je rentrerai dans le détail de ce cas-là un petit peu plus tard, où il nous expliqueront tous les deux qu'ils ont guéri ce cas d'hystérie, qui n'a évidemment pas été guéri du tout, mais enfin c'est une légende qui a été accréditée à cette époque-là. Eh bien, la fabrication de la légende de Anna O correspond au moment de l'apparition du Gai Savoir. Au moment où Nietzsche fait paraître Zarathoustra, Freud rentre chez Charcot, à la Salpêtrière, il assiste aux fameuses leçons sur l'hypnose. Par delà le bien et le mal, eh bien, correspond au moment où Freud ouvre son cabinet, 1886. Et puis Nietzsche tombe fou, vous savez, en janvier 1889. C'est le moment où Freud arrive chez Bernheim, c'est l'école de Nancy, où il a l'intention de parfaire sa technique hypnotique. Il n'est pas très bon dans le traitement hypnotique qu'il a découvert chez Charcot. Charcot pense qu'on hypnotise bien que les hystériques, et Bernheim, lui, considère qu'on peut hypnotiser tout le monde. Et donc, il est plutôt à la recherche de ce genre de confirmation, puisqu'il ne parvient pas vraiment à hypnotiser systématiquement. Et puis, Nietzsche rentre dans un long moment de folie, 10 années, hein, 1889 jusqu'à la mort, en 25 août 1900. Eh bien, c'est le moment où Freud écrit sur les paralysies hystériques, sur les aphasies et sur l'étiologie sexuelle des névroses. D'une certaine manière, il théorise ce qui est arrivé à Nietzsche. Nietzsche donc meurt le 25 août 1900. C'est le moment où paraît l'interprétation des rêves. Alors, c'est un livre qui aurait dû paraître quelques mois avant 1900, mais Freud a souhaité prédater, disons-le comme ça, le texte parce qu'il pensait que 1900, ça ouvrait le siècle. Et que son livre, eh bien, ouvrait le siècle aussi. Qu'à partir de lui, le XXe siècle allait véritablement commencer. Le livre, d'ailleurs, avait été tiré à 600 exemplaires à l'époque. Et il en a vendu 123 dans les 6 premières années. Il a fallu 8 ans pour épuiser la première édition. Donc, n'a pas été un succès de librairie. Les années 89-1900 sont des années nietzschéennes. Et je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas ne pas savoir que Nietzsche est devenu une vedette à son corps défendant. Il y a les constructions de la Villa Silberblick, dont je vous ai dit qu'on y installerait, enfin l'an dernier, qu'on y installait les archives. Donc on crée les archives Nietzsche. Il y a une biographie écrite par sa sœur, où elle essaie de faire de son frère, et pour notre plus grand malheur, une espèce d'antisémite, belliciste, guerrier, nationaliste, prussien, etc. Ce n'était évidemment pas. Mais début d'une hagiographie négative, les hagiographies sont toujours négatives de toute façon, mais écrites par la sœur. Il y a un ouvrage de Lou Salomé, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ouvrage extrêmement intéressant, ouvrage nietzschéen sur Nietzsche. Et puis, vous le savez, Lou est devenu l'ami de Freud, et il restera longtemps l'ami de Sigmund Freud. Il y a une existence européenne du philosophe, c'est-à-dire on le traduit, on le lit, on le découvre. En France, les éditions du Mercure de France avec Henri Albert traduisent à tout bout de champ et on découvre tout Nietzsche. Mahler, et, par exemple, Gustav Mahler et Richard Strauss composent à partir d'Ainsi parlait Zarathoustra, poèmes symphoniques, etc. Enfin bon, et on scénographie aussi la visite au fou, c'est-à-dire qu'il est là allongé sous une tunique de lin blanc et la sœur fait visiter le philosophe. Les gens viennent, on regarde Nietzsche, puis on disparaît. Donc, effectivement, il y a une Nietzsche-mania, si vous voulez, à cette époque-là. Et Freud lui fait savoir qu'il n'a pas envie de lire Nietzsche, qu'il ne veut pas lire Nietzsche, que ça ne l'intéresse pas. Il écrit dans « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique »« C'est la haute jouissance des œuvres de Nietzsche que je me suis refusé, avec la motivation consciente que dans l'élaboration des impressions psychanalytiques, je ne voulais être gêné par aucune sorte de représentation d'attente. » concept intéressant, représentation d'attente, simplement, c'est assez singulier de dire qu'on ne lit pas quelqu'un parce qu'on craint d'y trouver ce qu'on sait qui s'y trouve déjà. Donc, ça veut dire effectivement que dans cette espèce d'aveu caché, eh bien, Freud sait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et importantes chez Nietzsche, mais il n'a pas envie qu'on dise qu'il a pillé Nietzsche. Donc, il ne le lit pas, ou il dit qu'il ne le lit pas. C'est comme on voudra. On sait pourtant qu'il le connaît. Le cours de Brentano, dont je vous ai parlé tout à l'heure, philosophe important, intéressant, qui lui fait découvrir aussi Feuerbach, grand philosophe, Ludwig Feuerbach. Freud découvre la philosophie de Nietzsche à cette époque-là, 1873-1881, c'est l'époque où il fait ses études de médecine et où il est en auditeur libre, comme on dirait, dans les cours de Brentano. Lettre à Fliss, toujours, le 1er janvier 1900, il nous dit qu'il a acheté les œuvres complètes de Nietzsche. À un prix élevé. Il dit « J'espère trouver chez lui les mots pour beaucoup de choses qui restent muettes chez moi, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Trop paresseux. » On peut reprocher plein de choses à Freud, mais pas la paresse. Ça, c'est clair que sa vie durant, il aura été un gros travailleur, il a abattu beaucoup de travail, il a fait un travail considérable en tant qu'analyste, il a reçu un nombre considérable de gens, il a écrit un nombre de lettres incalculables, il a beaucoup produit intellectuellement, et la paresse n'était pas son vice. Ça paraît évident. Un petit peu plus tard, quand il sera devenu célèbre, 1931, il écrit à Lothar Bickel « Je me suis refusé l'étude de Nietzsche, bien que, non parce que, je risquais manifestement de retrouver chez lui des intuitions proches de celles que prouve la psychanalyse. » C'est-à-dire qu'on a là un argumentaire qu'on retrouvera dans la totalité de la pensée de Freud, du début jusqu'à la fin. Les philosophes ont des intuitions, les psychanalystes ont des preuves. Donc un philosophe, ça déjante, ça raconte des choses, ça postule. Moi, pas. Moi, je suis dans la preuve. Et toujours, il nous dira qu'il est dans la preuve. On verra, et j'ai repéré dans l'œuvre complète, le nombre de fois où Freud nous dit qu'il pose l'hypothèse, qu'il formule l'hypothèse, qu'il postule que, etc. Enfin bon, à l'évidence, on verra que tout était postulat et qu'il a lui-même cru à ces postulats comme à autant de vérités et qu'il nous disait que glisser du postulat à la vérité, c'était finalement faire œuvre de scientifique. Nietzsche était connu de Freud, donc je vous disais, par ses cours avec Brentano, cet achat des œuvres, les discussions qu'il a pu avoir avec tel ou tel. Et puis quand il démarre ses réunions d'amis psychanalystes, il consacre très vite et très tôt des séances à Nietzsche lui-même. Donc la première séance du 1er avril 1908, ça fait donc 8 ans que Nietzsche est mort, hein, elle est consacrée, cette séance, à De l'idéal ascétique, qui est l'une des dissertations, la troisième dissertation de la généalogie de la morale. C'est une dissertation qui nous dit très précisément que la répression des instincts génère la culpabilité, la douleur et la souffrance. La thèse que nous retrouverons dans « Malaise dans la civilisation » ou dans « L'avenir d'une illusion ». Dès que Freud va s'occuper de questions de civilisation, eh bien on retrouvera cette idée qui est une idée nietzschéenne, qu'effectivement la répression des instincts va générer un malaise. Dans ce texte qui est lu, on a une série de commentaires, chacun prend la parole. Le premier qui s'exprime, Hitchman, nous dit, citation, hein, « Un système philosophique est le produit d'une impulsion intérieure et ne diffère pas beaucoup d'une œuvre artistique. » Thèse absolument nietzschéenne. Nietzsche ne dit que ça. Et on peut comprendre que Freud puisse trembler à l'idée qu'effectivement on puisse faire de la discipline qu'il nous présente comme une science une simple manifestation autobiographique de sa propre personne. Hitchman nous dit qu'on sait peu de choses de la biographie de Nietzsche, et de fait, à cette époque-là, c'est pas encore aussi précis que maintenant. On sait simplement, et c'est ce qui intéresse les psychanalyses et les psychanalystes, qu'il eut une enfance sans père, ça on a eu l'occasion d'en parler, la mort de son père très tôt, la souffrance aussi de son propre père, l'agonie. Le fait qu'il ait vécu beaucoup au milieu des femmes, effectivement, la mère, la sœur, les tantes, le fait que très vite et très tôt, il ait eu le souci des questions morales. Et il est vrai que les premières dissertations de Nietzsche nous le montrent extrêmement soucieux du bien, du mal, des vertus, des valeurs et de ces questions-là. Il faut dire qu'il était fils de pasteur et petit-fils de pasteur. Le psychanalyste en question dit qu'il avait également le goût de l'antiquité et de la philologie, ce qui est vrai. Il a toujours une passion pour le latin, pour le grec et la formation qui est la sienne. Nietzsche est une formation de philologue. Et puis qu'il avait également une tendance à l'amitié virile. Ce qui est vrai, il y a effectivement chez Nietzsche un désir d'amitié comme il y avait une amitié romaine. Ça suffira pour les psychanalystes, ça suffira pour dire que cette passion pour l'amitié virile, c'est une tendance à l'inversion. C'est le mot que j'utilise parce qu'il est utilisé par les psychanalystes. On est donc dans l'idée que Nietzsche aurait été homosexuel. Et vous verrez que, indépendamment des trois essais sur la théorie de la sexualité, qui est un beau texte pour les homosexuels, où il nous dit que les homosexuels sont pas des tarés ou des pervers. Le fait aussi, à la décharge de Freud, qu'il ait signé une pétition pour qu'on cesse de persécuter les homosexuels en son temps, c'était courageux et extrêmement honorable. Mais il y aura, vous verrez, une théorie de l'homosexuel comme un personnage inaccompli, inachevé, un peu comme les femmes. Le modèle, c'est l'homme, et puis vous avez des gens qui n'y parviennent pas, et bien les femmes n'y parviennent pas, les homosexuels non plus. Donc il y aura une condamnation de l'homosexualité, puis aussi une condamnation assez stupéfiante de la masturbation, comme une espèce de chose effrayante et horrible. On voit les psychanalystes qui sont tous là s'exciter, c'est le cas de le dire, sur la question de la masturbation, en disant que c'est la catastrophe, c'est l'origine de toutes les névroses, de toutes les perversions, et qu'il faut arrêter de se tripoter. Et que de toute façon, si vous ne vous tripotez pas, c'est que vous refoulez aussi la masturbation, et que donc voilà. Alors, ou vous masturbez, c'est catastrophique, ou vous ne vous masturbez pas, c'est catastrophique aussi, parce que le refoulement, c'est presque pire. Et Hitchman nous dit que s'il n'avait pas eu cette vie sexuelle déplorable, probablement il n'aura pas fait la critique de l'idéal ascétique. Ça aussi, effectivement, on pourrait le conclure. À quoi il ajoute, et il conclut son intervention là-dessus, qu'il y a eu paralysie générale de Nietzsche, et que, par définition, on ne peut pas mener une analyse sur ce cas-là. Donc, commentaire et discussion de l'exposé, on a d'abord un psychanalyste qui nous dit que Nietzsche est un sujet taré. Comme ça, l'affaire est réglée, on n'a pas besoin d'aller voir plus loin ce qu'est sa pensée, ce qu'on lui devrait, hypothétiquement ou potentiellement. On parle de sa motivation homosexuelle, et puis on dit « c'est un moraliste, donc c'est pas un philosophe ». Moraliste au sens moraliste français du 18e, ou du 17e, plus encore. Adler, un psychanalyste, mais qui pour moi est un philosophe, plutôt nietzschéen, lui a compris très vite et très tôt, et ce sera d'ailleurs la première rupture de Freud avec ses disciples, il y aura également celle avec Jung, qui produira des dégâts, mais Adler est quelqu'un qui nous dit « Nietzsche est le plus proche de notre façon de penser ». Les choses sont clairement dites, Nietzsche est le plus proche de notre façon de penser. Il faut imaginer Freud tétouillant son cigare, parce qu'apparemment c'est une tabagie complète, les rencontres du mercredi, et attendant la suite. Il nous dit, Adler, qu'il y a un lignage, et c'est extrêmement bien vu, qui va de Schopenhauer à Freud via Nietzsche. Ça peut pas plaire à Freud, ça. L'idée qu'on puisse faire de l'histoire, inscrire la pensée de Freud dans un lignage fut-il philosophique. Parce que là, d'abord, on l'inscrit dans l'histoire, et c'est pas son souci, et ensuite, on l'inscrit dans l'histoire de la philosophie. Donc ça ne peut pas l'intéresser. Il nous dit également, Adler, que Nietzsche avait bien compris le rapport qui existait entre la thérapie et le fait que, pendant la thérapie, on entre à l'intérieur de soi et qu'on devienne un familier de la psychologie des profondeurs, qui était une proposition faite par Nietzsche lui-même. On verra ça dans la séance suivante. Il y a une proposition de psychologie des profondeurs, et le nouveau psychologue auquel Nietzsche invite, eh bien, c'est très précisément celui que deviendra ou ceux que deviendront les psychanalystes à ce moment-là. Il nous dit également que Nietzsche a bien compris les rapports entre répression des instincts et production de la civilisation. Ça, de fait, c'est une thèse majeure dans la généalogie de la morale. Un autre analyste, qui s'appelle Federn, dit, puisque moi je m'appuie sur les minutes de ces sociétés psychanalytiques, et ce sont, vous avez un scribe, un secrétaire qui note tout ça, et j'ai travaillé sur ces notes-là, Federn dit « Nietzsche est si proche de nos idées qu'il ne nous reste plus qu'à nous demander ce qui lui a échappé ». Il nous dit « Il a anticipé par intuition certaines idées de Freud, il fut le premier à découvrir l'importance de l'abréaction, du refoulement, de la fuite dans la maladie, des pulsions sexuelles normales et sadiques ». On reviendra sur le détail de ces choses-là au fur et à mesure. La réaction, c'est la catharsis, c'est le fait que vous puissiez guérir par la cure, recouvrer une santé perdue. Freud, à ce moment-là, prend la parole. Il dit qu'il a renoncé à l'étude de Nietzsche à cause de l'antipathie, c'est le mot qu'il utilise, l'antipathie pour son caractère abstrait. C'est singulier. Je ne sais pas. Il y a quand même plus abstrait comme philosophe que Nietzsche. Il aurait pu dire ça pour Kant, il aurait pu le dire pour d'autres. Schelling, Fichte, pour Hegel ou pour la grande tradition de l'idéalisme allemand, mais pas pour Nietzsche. Ces tentations occasionnelles de le lire, écrit le scribe, ont été étouffées par un excès d'intérêt. Donc ça, c'est un joli paradoxe. Vous avez tellement d'intérêt que vous ne vous y intéressez pas. Et comme ça, c'est clair, vous ne lui devez évidemment rien. Et il répond à Adler, et donc c'est le, le scribe qui note, hein, Freud peut assurer, c'est intéressant, il peut assurer, donc on n'aura pas de preuves, mais il peut assurer que les idées de Nietzsche n'ont eu aucune influence sur ses travaux. Otto Rank, autre psychanalyste, lui disserte sur la question de la pulsion sadique masochiste refoulée chez Nietzsche, et il considère que cette pulsion refoulée entretient une relation particulière avec sa théorie de la cruauté. C'est évidemment passé à côté de la théorie de la cruauté chez Nietzsche, qui n'a pas grand-chose à voir avec la cruauté des petits garçons et des petites filles qu'on trouve dans la Comtesse de Ségur et qui tronçonne des poissons rouges et qui jouit d'arracher des ailes aux papillons. C'est pas la théorie de la cruauté chez Nietzsche, c'est autre chose. On a eu l'occasion d'en parler l'an dernier, je ne développe pas. Et puis Stekel et les minutes, j'allais dire, du procès nous disent « Stekel a tendance à voir une sorte de confession » dans le fait que Nietzsche cautionne les glandules de houblon et le camphre. Alors ça, je dois dire que j'ai lu Nietzsche intégralement et je n'ai jamais vu que Nietzsche ait pu cautionner les glandules de houblon. Et je ne suis pas bien sûr qu'il ait vraiment beaucoup parlé de camphre. Mais enfin bon, si effectivement il y a une confession dans cette aventure, je suis preneur d'informations. Autre séance, parce que la première n'aura pas suffi, 28 octobre 1908, c'est l'apparition des Tchéomo. Texte important, me semble-t-il, autobiographique lui aussi, comme la fameuse autoprésentation de Freud, évidemment remplit lui aussi ce texte d'approximation sur soi-même. L'orateur s'appelle Hutler et il nous dit « Ce livre est un autoportrait rêvé ». C'est pas faux, mais toutes les autobiographies sont des autoportraits rêvés. Il nous dit « Nietzsche ne veut pas guérir ». Et ça, vous verrez, c'est une notion qu'on retrouvera par la suite dans la psychanalyse. C'est-à-dire la psychanalyse, ça marche toujours, sauf quand ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est que vous ne voulez pas guérir. Et Freud appelle ça le bénéfice de la maladie. Sous-entendu, vous avez intérêt à rester malade plutôt qu'à être guéri. Et votre inconscient vous maintient dans la douleur et dans la souffrance parce que vous avez plus intérêt à être malade qu'à être guéri. Donc, l'orateur nous dit, on a la généalogie de cette idée du fameux bénéfice de la maladie, il ne veut pas guérir Nietzsche parce qu'il sait que sa maladie est la cause de sa réflexion. Il faut lire la correspondance de Nietzsche pour voir qu'il se serait bien arrangé d'une guérison et que son inconscient aurait probablement trouvé son affaire à une guérison et que le génie de Nietzsche n'avait pas besoin de cette fameuse syphilis au stade tertiaire, c'est pas plus compliqué que ça, ce qu'on appelle un tabès, c'est-à-dire qu'il va vers une paralysie générale, et que Nietzsche se serait bien arrangé d'en finir avec cette syphilis qui lui a pourri la totalité de son existence. Et puis il y a une sophisterie que je trouve magistrale, parce qu'il nous dit « Sans connaître la théorie de Freud, Nietzsche en a senti et anticipé beaucoup de choses. Par exemple, la valeur de l'oubli, de la faculté d'oublier, sa conception de la maladie comme sensibilité excessive à l'égard de la vie. » D'une certaine manière, c'est Freud qui devient le précurseur de Nietzsche, et il faudrait presque engueuler Nietzsche d'avoir fauché quelques idées à Freud. Simplement, l'idée qu'il a senti, il en a senti beaucoup de choses, ça paraît quand même intéressant. Et puis, il y a cette fameuse attaque ad hominem qui consiste à dire que, ben, finalement, le personnage étant immoral, eh bien, il n'est pas digne de considération. Alors, immoral pourquoi ? Il aurait contracté cette syphilis dans un bordel pour hommes. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Alors, s'il y a une preuve, c'est clair. S'il n'y a pas de preuve, c'est une preuve encore plus importante. Parce que s'il n'y a pas de preuve, c'est qu'on a refoulé la preuve. Donc, quand on a refoulé la preuve, c'est que ça prouve encore plus, encore mieux. Donc, il est allé dans des bordels, puisqu'il ne s'en souvient pas, puisqu'il ne l'a pas dit, puisqu'on n'en trouve trace nulle part. C'est donc que ça a vraiment été le cas et qu'il a chopé sa syphilis dans cet endroit-là. Et puis une théorie freudienne, et là toujours, c'est pas la plume de Freud, c'est la plume du secrétaire. Freud dit « une certaine anomalie sexuelle est certaine ». Je veux dire, une certaine anomalie sexuelle est certaine. C'est assez intéressant, on se dit « mais anomalie, pourquoi ?» On n'a pas la preuve qu'il ait été inverti, comme on dit, puis l'utile était que ça change pas grand-chose à l'affaire. Eh bien, Freud nous dit, et vous verrez, on abordera cette question de l'homosexualité ou de la généalogie de l'homosexualité, comment devient-on homosexuel pour Freud ? Freud nous dit, l'homosexuel, c'est un narcissique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a une fixation sur l'objet libidinal qui est le moi. Donc, quand on fait une fixation sur l'objet libidinal qui est le moi, on va pas vers les autres, et à partir de ce moment-là, on s'aime soi. Donc, on devient homosexuel. C'est pour aller vite, hein, je préciserai ces choses-là, mais c'est la thèse de Freud. Et Ecce Homo est une autobiographie. Et une autobiographie, c'est narcissique. Donc, il est homosexuel. Donc, effectivement, on se dit, si le premier personnage qui écrit son autobiographie manifeste un narcissisme qui lui-même est le signe d'une inversion possible, effectivement, tous les gens qui écrivent « je » sont suspects d'être homosexuels et donc sont suspects de ne pas être lisibles, pas être lu, puisqu'on a déjà dit que ce n'était pas des philosophes, que c'était un moraliste, etc. Donc effectivement, on évacue le personnage. Freud nous dit Nietzsche a quand même fait un travail d'introspection extrêmement intéressant. Il est parvenu à un degré auquel aucun philosophe n'est parvenu. Donc il ne donne pas de détails, mais on peut songer probablement aux confessions de Rousseau, aux essais de Montaigne, aux confessions de Saint-Augustin. Mais, nous dit Freud, il n'a jamais atteint que du particulier. Il ne parle que de lui, et ça ne concerne que lui. Freud considère, lui, que quand il est dans l'autobiographie, on verra que l'interprétation du rêve est éminemment autobiographique, lui, il est non pas dans les intuitions, mais dans l'universel. Pas dans le particulier, il est dans la théorie générale et la scientificité. Les minutes en question nous disent, conclusion, hein, en partie à cause de la ressemblance qu'on s'est découverte intuitive, les questions de Freud, hein, avec les recherches ardues, et en partie à cause de la richesse de ses idées qui a toujours empêché Freud d'aller au-delà d'une demi-page dans ses tentatives de lire Nietzsche. Donc l'affaire est réglée, on y revient, les philosophes ont des intuitions, Nietzsche est capable d'avoir des découvertes intuitives, mais Freud, lui, il est dans la recherche ardue. Et l'opposition sera toujours ça. L'intuition des philosophes contre la recherche ardue du scientifique, qui est le psychanalyste. Il y aura aussi le livre de Lou, donc en 1894, qui s'appelle Frédéric Nietzsche à travers ses œuvres. Et l'ouverture du livre se fait sur une lettre de Nietzsche du 16 septembre 1882, extrêmement intéressante. Nietzsche écrivait, et elle se sert de cette lettre-là pour ouvrir son ouvrage, « Votre idée de ramener les systèmes philosophiques à la vie personnelle de leurs auteurs est vraiment l'idée d'une âme sœur. J'ai moi-même enseigné dans ce sens l'histoire de la philosophie ancienne à Bâle, et j'aimais dire à mes auditeurs, tel système est réfuté, est mort, mais la personne qui se trouve derrière lui est irréfutable. Il est impossible de le tuer. » Donc évidemment, on voit bien que le nietzschéisme, c'est effectivement une histoire de la philosophie, une histoire des pensées qui est radicalement nouvelle, qui est radicalement moderne, puisqu'elle renvoie au corps, à l'immanence, à la chair, à la vie, à la biographie, et pas du tout au ciel. Le temps passant, Freud étant devenu célèbre, ou commençant à devenir célèbre, le 21 et le 22 septembre 1911, à Weimar, Sachs et Jones vont visiter Elisabeth Förster pour rendre les hommages de la psychanalyse à Elisabeth. Pendant ce temps, Freud fait la rencontre de Lou Salomé, qui deviendra elle-même psychanalyste. À l'évidence, Freud est juif, Elisabeth Förster Nietzsche est une antisémite notoire, son mari était un antisémite forcené, et il y a un nombre considérable de juifs dans la psychanalyse à cette époque, et Freud considère qu'il y en a même un peu trop, et qu'il faudrait, avec Jung, essayer de voir comment on peut arianiser la chose. Ce sont des expressions de Freud lui-même, et on ne sait pas comment les choses se sont passées, mais je pense que l'hommage de la psychanalyse à Elisabeth Förster Nietzsche n'aura pas été goûté comme il l'aurait fallu. Sur la fin de son existence, le 11 mai 34, Arnold Zweig reçoit une lettre de Freud qui dit « Pendant ma jeunesse, Nietzsche représentait pour moi une noblesse qui était hors de ma portée. Un de mes amis, le docteur Panette, en vint à faire sa connaissance dans la Gadine. Il avait coutume de m'écrire des tas de choses à son sujet. » Donc, on sait que effectivement, il a bien connu Nietzsche et que le docteur Panette en question, qui lui faisait des balades avec lui en Engadine, mais qui a eu aussi des conversations sur l'époque du Zarathoustra, donc sur la question de la transmutation des valeurs, le corps comme une grande raison. Zarathoustra est quand même le lieu où il est question du « ça », qui deviendra l'une des instances de la deuxième topique de Freud. Donc le « ça » devient une topique de Grodeck, un psychanalyste, mais Grodeck dit lui-même qu'il tient cette instance-là de Nietzsche. Donc il y a vraiment une des instances de la deuxième topique de Freud qui est une instance spécifiquement nietzschéenne. Ils auront disserté probablement sur la question de la volonté de puissance, de la morale dominante, du rôle du christianisme dans la production des névroses, etc. etc. Bien évidemment que Freud connaissait Nietzsche et l'œuvre de Nietzsche. Le même Zweig dit à Freud qu'il aimerait bien écrire un livre sur l'effondrement de Nietzsche. Et Freud l'invite à renoncer à ce projet. Il dit « Je ne sais pas pourquoi je vous invite à y renoncer, mais renoncez-y ». Donc il y a vraiment une détestation toute son existence. Je poserai deux questions pour conclure. Ce sera l'occasion pour moi d'inviter à la séance suivante. Pourquoi y a-t-il eu ce déni de la philosophie? Pourquoi y a-t-il eu ce déni de Nietzsche en particulier? Il y a deux hypothèses. On verra si elles sont justes. L'idée que cet idéal de jeunesse aurait pu être trop élevé pour lui. À l'évidence, on peut imaginer que Nietzsche, qui ne courait après rien de ce qui intéressait Freud, c'est-à-dire ni l'argent, ni les honneurs, ni la richesse, ni la réputation, ni ce genre de choses, alors que Freud ne court qu'après ça et qu'il est obsédé par ça, voir les lettres à Flis, effectivement, ça peut être un idéal trop élevé et frustrant. La logique du renard et des raisins, si vous voulez. On n'arrive pas à parvenir aux raisins, ces raisins sont trop verts et on y renonce. Donc on peut imaginer qu'on aspire à une vie nietzschéenne, et puis on s'aperçoit qu'on ne mène pas une vie nietzschéenne, donc on se met à détester la vie nietzschéenne et les nietzschéens et ceux qui vont avec. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'idée que Freud n'a probablement pas envie qu'on puisse faire la démonstration qu'une pensée, c'est une autobiographie, est toujours une autobiographie. Il sait que ça n'est pas porteur pour être célèbre, pour avoir le prix Nobel, pour avoir une plaque sur sa maison natale, pour avoir des bustes à l'université ou ce genre de choses, pour avoir de l'argent, une réputation ou toutes les choses qui constituent le quasi quotidien des échanges, enfin l'essentiel des échanges avec Flis. Voilà les hypothèses que je vous propose. On verra avec la séance suivante si ce sont des hypothèses qui sont fondées ou qui ne le sont pas. Merci beaucoup. Donc les deux séances consacrées à Nietzsche sont racontées dans le menu, dans les minutes de la Société psychanalytique de Vienne, et vous avez une publication de ces minutes en 4 volumes, j'ai amené le dernier seulement, 4 volumes, le titre est « Les premiers psychanalystes ». Les fameuses lettres à Wilhelm Flis, c'est cardinal, c'est majeur. Le bandeau qui accompagnait ce livre était un autre Freud, point d'interrogation. On peut supprimer le point d'interrogation. Et c'était la première édition intégrale des lettres qui ont existé pendant très longtemps sur le mode des morceaux choisis. La première édition française date d'octobre 2006. La biographie d'Ernest Jones, la vie et l'œuvre de Sigmund Freud, vous avez trois volumes, j'ai amené le dernier là seulement, et donc vous avez 1500 pages, c'est la biographie autorisée, comme on dit. Et puis Adler, dont je vous ai dit du bien, Le temps venu, Adler, le tempérament nerveux, sous-titré Éléments d'une psychologie individuelle et application à la psychothérapie, et puis du même Adler, hein, Le sens de la vie, étude de psychologie individuelle. Voilà pour la bibliographie.